Voici l'entrevue
Radio de la Paix. Marthe Cacon.
La pollution de l'air est devenue l'une des préoccupations environnementales les plus pressantes et omniprésentes à l'échelle mondiale. Les polluants provenant de diverses sources peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, notamment provoquant des maladies respiratoires, des allergies, des maladies cardiovasculaires et même des cancers, puis un impact significatif sur l'environnement, contribuant ainsi au réchauffement climatique, à l'acidification des sols et des eaux, à la détérioration des écosystèmes et à la réduction de la biodiversité. Face à ces défis, de nombreux États ont mis en œuvre des politiques et des réglementations visant à réduire les émissions de polluants de l'air, à promouvoir l'utilisation de sources d'énergie propres et renouvelables et à encourager des modes de transport plus durables. Est-ce le cas pour la Côte d'Ivoire? Quel est l'état des lieux dans le pays? Quels sont les facteurs qui engendrent la pollution de l'air dans les zones urbaines comme dans les zones rurales? Pour en discuter, nous recevons une dame, une chercheure, au sein de l'équipe Aérosol et Pollution, au laboratoire des sciences de la matière, de l'environnement et de l'énergie solaire. Elle est également porteuse du projet Jeune Équipe Associée de l'IRD, Institut de Recherche et de Développement Physico-Chimie Atmosphérique et Impact. Bienvenue à tous.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Evelyne Touré, bonjour.
Bonjour Marthe.
Existe-t-il une différence entre l'atmosphère et l'air?
Théoriquement, il n'y a pas de différence parce que l'atmosphère est constituée par l'air. Donc, c'est plus ou moins la même chose.
Et donc, l'atmosphère est égale à l'air?
Oui.
Quels sont les éléments qui composent l'atmosphère ou qui composent l'air?
L'atmosphère ou notre air est composée à majorité du dioxyde d'azote. C'est un gaz, en fait, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le toucher. Il est incolore, mais il est présent. Ensuite, nous avons le dioxygène, parce que c'est grâce à lui qu'on respire. On inspire du O2, du dioxyde d'oxygène, et on rejette du CO2. Donc, tout ça, ce sont des gaz qui sont autour de nous. Ensuite, on a aussi un autre gaz qui est important. Le dioxyde d'azote, lui, représente 78% à peu près en termes de composition dans notre atmosphère ou dans l'air. On a l'argon qui représente moins d'1%, autour d'1%. On a aussi le dioxyde de carbone qui est autour de 0,4%. Et il y a d'autres gaz qu'on appelle traces parce qu'ils sont tellement petits en termes de proportion, qui sont aussi présents, qui constituent l'air, qui constitue notre atmosphère terrestre.
Et comment est-ce qu'il se forme l'air, l'atmosphère terrestre?
On va remonter peut-être dans l'histoire où j'ai fait quelques recherches qui disent que l'atmosphère qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'atmosphère qui a existé il y a 200 ans, 300 ans de cela. Donc, elle est en permanente évolution. Les scientifiques disent que l'atmosphère primitive était constituée essentiellement de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Mais vous voyez que tout à l'heure, quand on a défini l'atmosphère, on a dit qu'elle est composée en majorité d'azote, de dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et d'autres choses. Donc, ça veut dire que l'atmosphère, elle est évolutive. Donc, l'atmosphère primitive, on dit qu'elle s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Donc, on voit qu'elle est là bien avant même peut-être l'apparition de la vie sur la Terre.
L'air s'est donc formé avant l'apparition de l'homme sur la Terre, sinon on ne pourrait pas respirer de l'air.
Oui, tout à fait.
Alors, quel est le rôle de l'air, de l'atmosphère et quand peut-on parler de pression atmosphérique?
Bon, la pression atmosphérique, elle se mesure d'abord par les météorologues. Et pour la définir, la pression atmosphérique, c'est en fait la force qui est exercée par l'air qui est dans l'atmosphère. Souvent, vous entendez, on a la pression au niveau de la mer qui est de 1013 hectopascales. C'est la pression qui est à la surface de la Terre, au niveau de la mer. Donc, plus on va s'éloigner du niveau de la mer, la pression aura tendance à diminuer.
Est-ce que c'est ce qui fait qu'on parle de pollution atmosphérique? À quel moment on peut parler de pollution atmosphérique?
On parle de pollution atmosphérique lorsque on perturbe la composition même de l'air, de l'atmosphère. Donc, si j'ajoute des éléments qui ne sont pas présents ou bien je viens déséquilibrer un peu la composition chimique de cette atmosphère, de l'air autour de moi, je vais parler de pollution. On peut avoir la pollution qui peut être gazeuse, qui peut être aussi particulière. La poussière, par exemple, ou bien le désert, ou bien une rue non bitumée. On a du vent qui souffle, on va avoir que des éléments qui vont s'élever dans l'air, qui vont être des polluants. Donc, c'est toute perturbation engendrée par l'activité humaine.
Alors, comment se manifeste concrètement la pollution de l'air?
Elle peut être visible, par exemple, si on a des aérosols, puis ce sont des particules. Si on a des particules, on a de la poussière, on voit tout de suite que ce air-là n'est pas propre, n'est pas malsain. Mais aussi, on a les gaz qui peuvent aussi être présents, parfois ils sont invisibles. Et la pollution de l'air est une altération de la qualité de l'air, qui peut être caractérisée par des polluants chimiques ou biologiques, ou même physiques. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la santé.
Quelques exemples?
Il y a les crises d'asthme qu'on connaît, il y a des maladies pulmonaires, il y a des cancers. Dépendant de la nature et du type de polluant, et l'Organisation mondiale de la santé dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 millions ou 5 millions de personnes qui sont de mort prématurée due à la pollution de l'air.
D'où proviennent les substances qui sont à la base de la pollution de l'air?
En fait, la pollution de l'air peut être naturelle. La poussière, donc si on est au niveau du Sahara, on voit qu'il y a beaucoup de poussière, ou bien une route non bitumée, il y a de la matière qui est là, qui est tout de suite disponible pour créer de la pollution. Mais elle peut être aussi due à l'activité humaine. Donc, l'homme, dans sa recherche de bien-être, de solutions de confort existentiel, ou bien même pour ses activités de tous les jours socio-économiques, va émettre des substances qui vont contribuer à la pollution par ses émissions. Par exemple, les sources d'émissions, on a aussi les feux de décharge. Parfois, les gens brûlent les déchets à ciel ouvert. Les saisies de marchandises frauduleuses qui sont brûlées à l'air libre sont aussi des sources de pollution parce que lorsqu'on les brûle, on fait de la combustion, ça va émettre beaucoup de gaz, de particules dans l'air qui vont modifier notre air ambiant. On peut les identifier comme des sources importantes de pollution.
Et quels sont les types de polluants qui existent en Côte d'Ivoire?
Bon, en termes de type de polluants, on a pratiquement toutes les sources de pollution en Côte d'Ivoire. On a la pollution naturelle qui peut venir de la poussière du Sahel, du Sahara, ou même des routes non bitumées. On a les sels marins, si on est peut-être à 100 pieds droit en bordure de cours d'eau de l'océan. Et les polluants qui viennent de l'activité humaine que nous on appelle dans notre jargon de sources anthropiques. Ça peut être le trafic, les feux domestiques, les feux de brousse, les industries, un peu de tout.
Par exemple, des produits comme les déodorants, les parfums, les aérosols, les extincteurs sont-ils des sources de pollution de l'air?
Tout dépend de leur composition. En fait, certains peuvent être des sources de pollution, peuvent contribuer par exemple à la pollution, mais pas tous. Il y a beaucoup de sources de pollution, on peut pas toutes les citer. La maman qui utilise le bois ou bien le charbon, même dans son foyer aussi, va émettre aussi des polluants dans l'air. On a des études aussi qui ont montré au niveau de la Côte d'Ivoire ici à Yopougon, l'impact de l'utilisation d'un certain type de combustible sur la santé des enfants de moins de 5 ans. Donc, on parle de pollution interne, de pollution externe, qui vont aussi impacter la santé de nos enfants, des personnes âgées et tout le monde. Donc, certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres en fonction de leur système immunitaire. Si je fais un feu de brousse, lorsque je brûle, je vois qu'il y a de la fumée, donc il y a des particules, il y a des gaz qui vont être émis, qui vont venir changer la composition chimique, la composition même physique aussi de l'air autour de moi, donc de mon atmosphère. Et ça aussi, c'est une source de pollution.
De plus en plus, il y a des fabricants de briques qui s'installent dans les quartiers. Selon vous, est-ce que cette activité humaine est source de pollution?
Bien sûr, avec les cimenteries. Et même quand vous voyez autour de vous, quand il y a une cimenterie quelque part, on voit qu'il y a des dépôts un peu partout de particules de poussière qui sont disposées. Même le maçon qui utilise son ciment, quand il l'ouvre, il y a une partie qui est aussi émise dans l'atmosphère. Donc, toutes ces activités humaines contribuent aussi à la détériorisation de notre qualité de l'air.
Quel lien on peut faire entre la gestion des déchets et la qualité de l'air?
On dépose sur nos sites plusieurs déchets de différentes origines. Et parfois, il y a des réactions chimiques qui font qu'il y a des feux qui se déclenchent spontanément sur la décharge. Et une fois que ces feux-là vont se déclencher, ça va émettre beaucoup de polluants dans l'atmosphère. Donc, ils vont créer une pollution supplémentaire en plus de la pollution environnementale que ça crée. Il y a des gens aussi qui vont parce que les déchets sont peut-être disposés à côté de leur maison ou de leur endroit de travail, qui vont les brûler spontanément, qui vont aussi créer des sources supplémentaires de pollution. Donc, une bonne gestion de déchets, par exemple, en faisant des tri où on pourrait réutiliser la matière organique qui est contenue dans nos déchets quotidiens pour faire des engrais ou les réutiliser autrement, pourrait déjà contribuer à une ébauche de solutions. Ensuite, ce qu'on peut recycler, on les recycle, et ce qu'on ne peut pas, on pourra trouver un autre traitement pour voir comment les réinsérer ou bien les réutiliser.
Il y a aussi les déchets qu'on jette à l'air libre, qui se décomposent des semaines, des mois, et dont les essences remontent dans l'air, ça peut créer aussi une pollution.
Bien sûr, tout à fait. En termes de pollution, il y a la pollution primaire qui peut être directement par des sources, mais aussi les composants chimiques vont réagir entre eux pour créer d'autres polluants qu'on appelle les polluants secondaires. On dépose sur nos sites plusieurs déchets de différentes origines. Et parfois, il y a des réactions chimiques qui font qu'il y a des feux qui se déclenchent spontanément sur la décharge. Et une fois que ces feux-là vont se déclencher, ça va émettre beaucoup de polluants dans l'atmosphère. Donc, ils vont créer une pollution supplémentaire en plus de la pollution environnementale que ça crée. Il y a des gens aussi qui vont, parce que les déchets sont peut-être disposés à côté de leur maison ou de leur endroit de travail, qui vont les brûler spontanément, qui vont aussi créer des sources supplémentaires de pollution. Donc, une bonne gestion de déchets, par exemple, en faisant des tri où on pourrait réutiliser la matière organique qui est contenue dans nos déchets quotidiens pour faire des engrais ou les réutiliser autrement, pourrait déjà contribuer à une ébauche de solutions. Ensuite, ce qu'on peut recycler, on les recycle, et ce qu'on ne peut pas, on pourra trouver un autre traitement pour voir comment les réinsérer ou bien les réutiliser.
À ce stade, la qualité de l'air se détériore. Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement en tant que tel?
La qualité de l'air qui se détériore a un impact non seulement sur l'environnement, mais aussi sur les hommes qui habitent ou bien qui vivent dans cet environnement-là. Donc, il y a des maladies cardiovasculaires, il y a des maladies pulmonaires qui vont se développer pour quelqu'un qui respire tous les jours, qui est exposé à la mauvaise qualité de l'air.
En dehors des cimenteries, des fabrications locales traditionnelles de briques dans les quartiers, qu'on aperçoit ça et là dans tous les quartiers, aucun quartier du district d'Abidjan n'échappe à cette situation.
Puisque c'est des gaz, des particules qu'on émet qui vont changer la composition même de notre atmosphère, ça va changer la composition par exemple de la pluie. Ça peut créer des pluies acides, ça peut créer des pluies trop basiques, qui vont aussi impacter les écosystèmes, qui vont impacter par exemple la fleur, la plante. Et même quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, on a parlé des cimenteries tout à l'heure, vous voyez que même les plantes qui sont autour, elles sont toutes frêles, elles sont pas en bonne vie, parce que cette pollution-là aussi impacte. Cette pollution-là va aussi être lessivée par les pluies, donc les éléments qui sont présents vont tomber, qui vont aussi changer, par exemple, qui vont modifier la composition de l'eau s'il y a d'un cours d'eau qui est là, donc qui deviendra moins potable pour les habitants de la région. Donc, il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact environnemental, il y a l'impact aussi sur le climat, parce que quand on parle de changement climatique, tout commence par les émissions. On parle de CO2 qui est beaucoup pointé du doigt quand il s'agit de changement climatique. Donc, ce CO2-là aussi va contribuer au réchauffement de la planète. Et aussi, on a les impacts sur les écosystèmes, sur la santé humaine. Donc, tout notre environnement est impacté par la pollution de l'air.
OK. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, peut-on avoir une idée de l'étendue de la pollution de l'air et quels sont les principaux polluants atmosphériques préoccupants dans le pays?
Au sein de notre équipe ici, on a mené beaucoup d'études dans divers projets. Il y a eu le projet d'Akiwa, il y a eu des projets comme Polka qui ont mesuré en fait l'état de la pollution de l'air en Côte d'Ivoire et dans certaines villes africaines, pas seulement la Côte d'Ivoire. Et les chiffres sont alarmants parce que il y a beaucoup de pollution. Le taux de pollution n'est pas zéro et il est alarmant si rien n'est fait.
Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
oui,
nous sommes à combien? Donnez-nous des chiffres.
Nos études ont montré que la source principale de pollution à Abidjan, il y a le trafic qui représente par exemple 44% de la pollution, il y a les feux domestiques qui sont à 40%, il y a la poussière naturelle et la poussière aussi des routes qui sont à peu près 11%, il y a les sels marins parce que nous sommes en bordure de mer qui représentent à peu près 3% de la pollution au niveau d'Abidjan. Et puis, il y a la poussière émanant de la construction qui est à autour de 1%. Mais dans une ville, par exemple, comme Korogon, qui est plus au nord, la poussière, les feux domestiques et les feux de biomasse représentent là-bas 70% de la pollution. Et le trafic est autour de 16%, avec la poussière qui est un peu plus importante à 8%, et puis des sources naturelles, les pesticides et les activités agricoles qui sont autour de 2%, 2,5%. Même en milieu rural, on a de la pollution extérieure qui sera due par exemple à des événements comme le vent d'Amatan qui va nous ramener beaucoup de poussière du Sahel, du Sahara qui vont descendre sur les côtes ici. C'est généralement ce phénomène-là s'observe en décembre et février à peu près sur notre zone, en parlant de la Côte d'Ivoire. Donc, il va nous transporter beaucoup de poussière de ces zones désertiques. Mais il y a aussi, quand on regarde, on voit qu'en saison sèche, parce que tout est sec et que la poussière va s'élever plus facilement, la pollution par la poussière sera importante, par exemple, en saison sèche qu'en saison des pluies. Aussi, il y a un autre phénomène qui est très important, qui sont les feux de biomasse, les feux de brousse, qui ont essentiellement lieu durant la saison sèche. Donc, lorsqu'on aura aussi les feux de biomasse, ça sera une pollution supplémentaire qui va s'ajouter à la pollution naturelle. Et en fonction des activités qui ont lieu dans un endroit bien donné, si je suis dans la zone industrielle, je n'aurai pas le même type de pollution que si je suis quelque part à Cocody en zone résidentielle. Ou bien même si je suis dans un quartier moins nanti, dans la même ville, parce que là-bas, on utiliserait peut-être beaucoup plus de charbon, de bois même pour la combustion. Cette pollution-là sera différente dans un milieu nanti où les gens cuisinent avec le gaz, par exemple. Donc, la pollution va être liée au type même d'habitat, au type d'activité qui ont lieu dans un environnement donné. Tout dépend du lieu où l'on se trouve. Si je suis dans un milieu où il y a peut-être la vendeuse qui utilise le bois, ma source peut-être première sera le feu domestique. Mais aussi, on se rend compte que dans beaucoup, avec l'utilisation de véhicules, il y a les garages qui se développent un peu partout. Et ces garages-là aussi vont être des sources de pollution supplémentaires dans des milieux qui n'avaient pas forcément cette source-là identifiée. Et il y a des enfants qui vivent dans ces communes-là qui vont être aussi impactés par les fumées, parce que parfois les garages spontanés qui vont se créer, ce sont des garages où on n'envoie pas des nouvelles voitures qui sortent, mais ce sont des très vieilles voitures qui fument beaucoup, qui vont être réparées. Donc ça peut être aussi des sources de pollution. Et dans le milieu industriel, toutes les industries ne mettent pas de la même manière. Une cimenterie ne sera pas égale en termes d'émissions à une raffinerie, là où est une agroalimentaire. Donc, chaque type d'industrie va émettre des gaz en fonction des énergies qu'ils utilisent, en fait. Donc, ça va beaucoup varier. En Afrique, le plus souvent, contrairement aux pays industrialisés où l'industrie est tout de suite pointée, notre première source n'est pas forcément les industries, mais c'est plutôt les sources d'émissions les plus parlantes, parfois dans notre milieu de tous les jours, dans notre quotidien. Donc, on a dit le trafic, le transport, le combustible solide. Donc, on utilise le charbon ou le bois qu'on utilise pour la cuisson. Donc, vous voyez que nos mamans qui nous font la nourriture à la maison sont aussi exposées à la pollution.
Quelles sont les conséquences économiques liées à la pollution de l'air en Côte d'Ivoire?
On a vu tout à l'heure que la pollution avait un impact sanitaire. Déjà, si on réduit, on a une meilleure qualité de l'air, on va éviter ces maladies-là. Donc, ça va faire moins d'entrées de personnes à l'hôpital. Ça va faire des personnes en bonne santé qui vont travailler pour notre économie. Et ça va aussi permettre d'avoir une meilleure espérance de vie, par exemple. Lorsque vous avez un enfant qui est en bonne santé, ça fait moins de stress pour vous. Ça vous fait aussi gagner en termes de temps, d'énergie, tout ça. On a une expérience en cours actuellement dans un autre projet, Happy Mama, qui se fait à Yopougon, où on essaie d'introduire des foyers améliorés auprès de nos mamans pour la cuisson, comme aussi pour le fumage. Et ces foyers améliorés là permettent d'utiliser moins de combustible, donc que ce soit le charbon ou le bois, ça fait des économies pour la ménagère, puisque je peux faire le même boulot avec moins de combustible. Donc, si j'achetais mon charbon à 200 francs, que je peux fumer ma viande ou mon poisson avec du charbon de 100 francs, je gagne en économie avec ces foyers améliorés. Et aussi ma santé, parce que je vais passer moins de temps en contact avec la source polluante, je vais aussi gagner en matière de santé. Donc, je vais payer peut-être moins de médicaments pour me soigner, tout ça. Donc, en utilisant des technologies nouvelles, moins polluantes.
Alors, selon vous, quels sont les groupes de population les plus exposés
est vulnérable aux effets de la pollution de l'air en Côte d'Ivoire et quelles mesures sont prises pour les protéger?
Le fait même de vivre dans un quartier plus ou moins nantique, qu'un quartier plus ou moins précaire, on n'est pas exposé aux mêmes sources, aux mêmes types de sources. Donc, pour une personne qui vit, qui est obligée de cuisiner avec le bois ou avec du charbon de bois, elle est beaucoup plus exposée qu'une autre personne qui utilise le gaz. Donc, le fait de rendre le gaz accessible à tout le monde en diminuant le coût, en permettant que tout le monde ait accès au gaz butane, on gagne non seulement en termes de coût, en termes de santé et aussi en termes de temps, je dirais. Si on arrivait au mix énergétique dans le monde occidental où on arrive à cuisiner avec l'énergie électrique, on améliorerait aussi la qualité de l'air pour nos classes sociales et pour les différentes couches de la population. Ça permettra aussi de diminuer, de réduire les émissions. Donc, on gagnerait non seulement en termes de pollution de l'air, mais aussi on gagnerait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Pour vous qui êtes souvent sur le terrain, est-ce qu'il existe des initiatives locales ou des projets communautaires visant à sensibiliser et à réduire la pollution de l'air en Côte d'Ivoire?
On a le projet Happy Maman qui s'intéresse aux femmes fumeuses dans la commune de Yopougon. Donc, qui propose des solutions concrètes pour réduire la pollution provenant de leur activité de tous les jours, de fumage. Il y a eu aussi le projet Cher Paul qui a été aussi exécuté ici, qui s'est intéressé à la pollution intérieure et l'exposition à la pollution intérieure pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, comme ils étaient exposés, il y a eu aussi des solutions qui ont été suggérées.
Et à l'intérieur du pays?
On a beaucoup travaillé d'abord sur la ville d'Abidjan, aux alentours, mais maintenant, on est en train de s'intéresser de plus en plus à l'intérieur. L'une des premières villes qu'on a beaucoup étudiées, c'est Korogo, dans le cadre du projet PASMU, qui a regardé la pollution et les impacts sanitaires sur la ville de Korogo.
Evelyne Touré, quels efforts sont entrepris par le gouvernement ivoirien pour réduire la pollution de l'air dans le pays?
Il y a plusieurs efforts. Certains sont parlants, certains ne le sont pas, certains sont moins. Il y a la subvention au gaz butane qui a permis de changer, de faire une grosse évolution. Quand on était petit, on voyait qu'il y avait beaucoup de personnes qui cuisinaient avec le bois. Je me rappelle qu'on nous envoyait parfois même aller acheter du bois pour la cuisson des mets à la maison. Mais aujourd'hui, tous ces bois-là ont été remplacés pratiquement par le gaz butane. Et on voit le fait qui est le plus populaire, qui est utilisé même par la grilleuse de Beaufloto dans le quartier. Et ça, ce sont des mesures que l'État a mis en place pour qu'on ait cette utilisation de gaz butane-là, qui en réalité permet de jouer fortement sur les émissions des feux domestiques. Cependant, jusqu'à présent, on voit que à cause du coût de ce gaz butane, il y a des personnes qui ne sont pas à mesure de pouvoir s'en en procurer, même dans nos villages, parce que les revenus sont encore faibles, c'est encore trop cher pour eux. Donc, c'est de demander à l'État de faire encore des efforts pour que le gaz soit mis à la disposition de tout le monde. Mais on a l'avantage d'être en Afrique où on a les énergies renouvelables qui peuvent être aussi utilisées pour l'électrification, mais aussi pour la cuisine. Donc, certains pays le font déjà, où ils utilisent des énergies propres pour la cuisine, l'électricité. On peut arriver au niveau où on aurait de l'électricité à moins de coût de telle sorte qu'on puisse l'utiliser aussi pour la combustion de nos aliments. Ça contribuerait à fortement réduire cette source de feu domestique, cette source de pollution. Il y a aussi une autre mesure qui a été portée par le gouvernement, par exemple le renouvellement du parc auto. Certes, c'est difficile. L'interdiction des voitures de moins de 5 ans, ça a été une décision difficile. Ça fait que les voitures sont chères, mais ça permet de renouveler le parc auto. Et puisque les voitures, avec les nouvelles technologies, émettent moins que les anciennes voitures qui n'avaient pas forcément toute cette technologie de réduction qui était mise en place, ce sont des mesures qui contribuent à réduire les émissions. Cependant, le prix des voitures fait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de vieilles voitures, de voitures en très mauvais état qui sont en circulation et qui impactent très négativement la qualité de l'air dans nos villes.
Et dans la lutte contre la pollution de l'air en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des difficultés?
Oui, en tant que scientifique, on n'est pas toujours compris. Et parfois, on nous pose des questions on n'a pas toujours la réponse parce que souvent le décideur lui veut une réponse. Tu produis ça, j'ai tel résultat. Et en science, on peut avoir des éléments de réponse, mais il faut être un peu prudent en donnant des chiffres. Je vais vous donner un exemple concret des études qu'on a faites dans notre équipe ici qui ont montré qu'il y a 3 composantes essentielles qu'on devrait toucher pour pouvoir réduire de façon significative les émissions pour ce qui est de la Côte d'Ivoire et de la ville d'Abidjan. L'ouverture de nouvelles voies, le renouvellement de parc auto et la réduction en teneur de soufre dans les carburants. Le renouvellement du parc auto, la décision a été prise, c'est difficile, mais parfois les gens trouvent toujours un moyen pour contourner. Donc, elle n'est pas appliquée dans sa totalité. L'ouverture des nouvelles voies, on voit déjà un effet pour la fluidification du trafic, mais la troisième mesure est encore à la traîne. Et tant qu'on n'a pas tout ça ensemble, ça sera difficile de voir l'impact réel de ce que nous on a donné comme recommandation de nos propositions. Sinon, on fait des études, on a des résultats et on fait des propositions aux décideurs, mais l'applicabilité ne dépend pas de nous.
Quelle est l'étendue de la pollution de l'air en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays de la sous-région ou du monde?
Nos études ont montré que les concentrations de polluants sont très importantes. L'OMS était à 25 microgrammes par mètre cube, la concentration. Mais aujourd'hui, on se rend compte que avec même ces 25 microgrammes, on avait des concentrations qui étaient, et ça, ce sont les anciennes normes. Quand on mesurait les concentrations au niveau de la ville d'Abidjan, même à Korogo, on a trouvé des normes beaucoup plus élevées que ça. Dans leur nouveau guide, l'OMS a demandé à ce que ces concentrations-là soient revues à la baisse et elles sont aujourd'hui à 15 microgrammes par mètre cube. Nous sommes au-delà de ces 15 microgrammes pour dire que la pollution à Abidjan ou bien la pollution en Côte d'Ivoire est aussi importante que dans certaines villes industrialisées, dans certaines grandes villes du monde. Donc, c'est pas parce que nous sommes sous-développés que nous polluons moins ou bien qu'on a une bonne qualité de l'air. Mais à cause des différentes sources, à cause du matériau ou des combustibles que nous utilisons, nous émettons parfois, en termes de polluants, des quantités aussi importantes que dans certaines villes polluées. Les sources peuvent être différentes, mais le résultat final est pratiquement le même.
Evelyne Touré, je vous remercie.
Merci, Matt.
Les résultats montrent que l'air que nous respirons est autant pollué en Côte d'Ivoire que dans certaines parties du monde. Nous pouvons éviter cette situation si nous agissons fortement sur les principales sources de pollution en essayant de les réduire au maximum. Malgré les efforts visant à diminuer les émissions de polluants, la pollution de l'air en Côte d'Ivoire souligne ainsi l'importance de continuer la sensibilisation puis de réglementer et de prendre des mesures pour protéger l'atmosphère. C'est à cette seule condition que nous pourrons améliorer notre cadre de vie, notre environnement. À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Matt Kakou à ce micro. Merci de votre attention.
C'était l'entrevue Radio de la